RFI, grand reportage.
Camille Magnard, Mathilde Goanec.
À des centaines de mètres à la ronde, le sol n'est que débris de verre pilé qui crissent sous les pas. Au fond de ce vallon aveugle, depuis plus de 30 ans, des tonnes de miettes d'ampoules ont été accumulées jusqu'à former aujourd'hui de véritables montagnes de verre et de métal broyé. Nous sommes à Maïloussou, localité perdue du sud du Kirghizistan, vallée en cul-de-sac qui s'enfonce dans les montagnes, non loin de la frontière ouzbek. Plus bas, c'est la plaine, la grande vallée du Fergana, cœur historique et région la plus peuplée d'Asie centrale. Sur les débris de verre, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants s'activent. Accroupis, chacun gratte frénétiquement le sol à l'aide de petits râteaux et picore, ça et là, un invisible butin. Saltinaï, 43 ans, ne relèvera pas la tête et n'arrêtera pas son travail pour nous parler.
Regardez, tout le monde sait bien ce qu'on cherche ici. On creuse dans les déchets d'ampoules pour trouver du nickel, pour gagner notre vie. Moi, je viens du village de Bazar Korgan. Ça fait un an et demi que je travaille ici. Je viens pour 10 jours et puis je rentre 10 jours à la maison. Mon fils et mon mari sont avec moi. Cet après-midi, j'ai ramassé tout ça. Ça fait à peu près 300 grammes. 200 grammes, ça vaut 6,50 euros. Je n'ai pas d'autre travail. Dans mon village, j'ai un grand terrain où je cultive du blé. Ça me donne 800 kilos de blé chaque année. Mais ça ne rapporte pas assez pour nourrir mes 5 enfants. Au début, travailler sur les déchets, c'était dangereux. Je me coupais tout le temps. Mais maintenant, ça va. Je me suis habituée.
Sommes, le kilo de nickel, c'est environ 17 euros en une journée de travail pour un homme bien entraîné. La manne a de quoi attirer les foules. Dans cette région, les deux mamelles soviétiques de l'économie locale, la culture du coton et l'industrie, ne font plus vivre la population. L'immense usine d'ampoules qui a déversé ici ses déchets pendant une quarantaine d'années illustre ce déclin. Elle qui s'enorgueillissait sous l'URSS d'apporter la lumière au monde entier tourne aujourd'hui au ralenti. Depuis 2004 et la découverte du filon, c'est désormais en direction des montagnes de verre que partent chaque matin les travailleurs. Camir, chômeur de 55 ans, venu d'un village voisin, est de cela.
Il y a longtemps, des tonnes d'ampoules avec des défauts ont été rejetées ici. Dans ces ampoules, il y a des filaments de nickel. Avant, personne n'y faisait attention, mais aujourd'hui, la vie est dure et c'est une bonne chose pour nous d'avoir trouvé ça. Maintenant, beaucoup de gens comme moi viennent chercher du nickel. J'ai appris ça par le bouche à oreille. Mon voisin m'a dit que les gens qui venaient travailler ici gagnaient bien leur vie, que ceux qui sont là depuis le début ont même acheté des voitures. Alors je suis venu travailler ici avec mon fils.
Avec ironie, les locaux ont même surnommé le site Kumtor, du nom de la plus riche des mines d'or kirghizes. Dans ce Kumtor bis, on gratte en famille et de nombreux enfants donnent un coup de main à leurs parents. Aziz Bek, un seau plein de douille rouillée à la main, s'active au fond d'une cavité au moins aussi haute que lui.
J'ai 10 ans et je viens travailler ici avec mes sœurs pendant les vacances et les week-ends. Mon travail est simple, je n'ai qu'à gratter, à chercher les filaments de nickel dans les trous. Ce n'est pas un travail trop dur, moi je ne fais que ramasser, je ne porte pas.
Ici, tout s'est organisé en quelques mois, sans aucun contrôle officiel. Le travail est humiliant, pénible et surtout dangereux. Venus chercher la fortune, certains ont trouvé la mort sur les montagnes de verre. Nemat Mambetov, directeur du centre médical épidémiologique de Maïloussou.
Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la sécurité sur le site. Des gens meurent sur ces déchets en cherchant du nickel. Je connais personnellement 6 personnes qui se sont retrouvées ensevelies sous les déchets. Mais je pense qu'il y en a plus, parce que la majorité des gens qui travaillent ici viennent d'autres villages. Et quand il y a des morts, les familles les ramènent discrètement chez elles, sans faire de déclaration. On parle plutôt d'une vingtaine de personnes décédées dans ces conditions depuis le début. Donc c'est grave parce que les gens ne se rendent pas compte du danger quand ils creusent très profond dans ce sol particulièrement instable. Parmi eux, il y a des enfants qui, eux non plus, ne nous écoutent pas. On nous répond « Je décide tout seul de ma vie et de ma santé. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Si l'on est là, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix pour gagner de l'argent. »
Cela fait maintenant 3 ans que l'exploitation sauvage du site se poursuit, toujours plus profond dans les débris de verre. Le danger et le nombre de morts augmentent avec le temps et l'on commence à peine à découvrir les méfaits sur la santé de cette activité. Explication avec Rahman Bektoychuev, le directeur de l'Institut des problèmes médicaux auprès de l'Académie des sciences de Hoche, la grande ville voisine.
Les déchets d'ampoule posent un gros problème. Les montagnes de verre se trouvent sur l'emplacement de l'ancien abattoir et l'on y enterrait les animaux malades. J'ai entendu dire que ceux qui creusent ont atteint le tombeau des animaux et qu'ils tombent régulièrement sur des os. On a donc affaire à un foyer de développement de maladies infectieuses de type anthrax. C'est également très dangereux car en cas d'inondation, les microbes peuvent être emportés dans la rivière et provoquer une grande infection de la population. Il y a aussi le problème des poussières de verre et de nickel qui se dégagent quand on sépare les deux éléments dans les moulins. Les enfants qui ont travaillé 1 ou 2 mois sur ces moulins et qui ont respiré la poussière d'ampoule sont aujourd'hui handicapés. Je me souviens par exemple d'un jeune homme, Kaira, qui a travaillé au moulin et pas directement sur les déchets. Il a été convoqué pour passer un examen médical pour l'armée. C'est là que les médecins ont diagnostiqué une infection grave de son système respiratoire et l'ont réformé.
Ces moulins sont de simples cylindres de béton dans lesquels tourne une centrifugeuse qui nettoie le nickel des impuretés. De jeunes garçons, entre 12 et 14 ans pour la plupart, passent leur journée, la tête penchée au-dessus des bruyantes machines, absorbant au passage la fine et nocive poussière de verre broyé. Nous sommes ici, au centre du trafic. C'est le domaine des véritables maîtres des lieux, les propriétaires de moulins, ceux qui rachètent le nickel récolté. Timour, ramasseur de 47 ans, est lucide sur ce trafic qui tire profit de son travail.
Tout ça, ça part en Chine. Mais nous, on vend aux gens des moulins. Ce sont ceux qui possèdent les moulins et qui contrôlent la revente, car ils étaient là les premiers. Nous leur donnons 10% de ce que l'on gagne.
Un véritable village de yourtes, les tentes rondes des nomades kirghizes, a poussé sur le sol de verre. Le décor rappelle tout à la fois les villages des chercheurs d'or du Far West et les bidonvilles de Calcutta. Une activité frénétique agite ce petit monde dans le vacarme des groupes électrogènes autour des moulins et des balances qui pèsent la récolte de chaque ramasseur. À l'écart de cette agitation, nous rencontrons l'un des trafiquants, Mourad, réfugié derrière les vitres teintées de son luxueux 4x4 japonais. L'homme veille au grain et se présente volontiers comme un bienfaiteur.
Au début, les premiers ramasseurs coupaient les fils de nickel avec des ciseaux. Nous, nous avons eu l'idée de faire des moulins qui cassent les ampoules et séparent les débris de verre du métal. Comme ça, on facilite leur travail. Moi, je possède 3 moulins. C'est moi qui les entretiens. J'ai dû acheter un groupe électrogène pour faire marcher le tout. Les travailleurs m'amènent leur récolte. Je sépare le verre et le nickel dans mes moulins et je leur achète le nickel que je revends ensuite à des gens qui viennent exprès de Bishkek, la capitale.
Impossible d'en savoir plus sur les échelons supérieurs de ce trafic très bien organisé. À l'hôtel de ville de Mailoussou, Boumaïram Mamasaitova, seule femme mère du Kyrgyzstan, a mené sa propre enquête, en vain.
Avec toutes les structures de Mailoussou et de la région, la mairie, l'hôpital, on a essayé d'arrêter les gens. On a fait des brochures pour leur expliquer les dangers pour leur santé et surtout pour les enfants qui travaillent sur le site, mais rien n'y fait. On a eu beau bloquer la route, mettre des camions en travers, les gens continuaient à vouloir aller travailler sur le site et ils sont même venus manifester devant la mairie. Je me suis moi-même rendue à Bishkek, j'ai alerté la presse pour trouver ces gens qui achètent le nickel de Mailoussou. L'idée, c'était de leur proposer de s'installer ici, de faire les choses officiellement, sans intermédiaire, et de créer de meilleures conditions pour ceux qui travaillent sur les déchets. Mais je n'ai pas pu remonter la filière jusqu'au bout, retrouver les derniers acheteurs. On a vraiment affaire à un trafic de type mafieux.
«
vallée de Maïdoussou a été classée en 2006 parmi les 10 sites les plus pollués du monde. Ce triste palmarès, elle le doit non seulement à ses montagnes de verre brisé, mais aussi à la présence dans son sol de 2 millions de tonnes de déchets d'uranium. Héritage encombrant de la première vie de la vallée, période guerre froide, c'est grâce à l'uranium extrait des montagnes de Maïdoussou que l'URSS a pu se doter de la bombe atomique et ainsi rivaliser avec les États-Unis. La mère de Maïdoussou, elle-même fille de mineur d'uranium, se souvient.
La ville de Maïdoussou en tant que telle est née en 1956 autour d'une mine d'uranium, une mine créée et exploitée par les soviétiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette mine et son usine d'enrichissement d'uranium ont fonctionné jusqu'en 1962 avant de fermer brutalement. C'est pour garder une activité économique à Maïdoussou et donner du travail aux habitants que les soviétiques ont alors ouvert l'usine d'ampoule. Des mines, il reste 23 sites de déchets d'uranium et 10 sites de roches radioactives non couvertes.
Les sites de stockage les plus dangereux, on les trouve à proximité de la rivière Maïdoussou, qui serpente dans la vallée avant de rejoindre un affluent du fleuve Sir Daria. Sur ces prairies mal fermées par des barbelés éventrés, chèvres et vaches pèsent tranquillement. La pollution est invisible mais bien réelle, comme nous l'indique Razoul, le technicien chargé par la mairie de la surveillance de ces sites.
En surface, on ne voit rien, mais l'uranium est enterré en couches. Une couche d'uranium, une couche de terre, comme un gros gâteau. Là, si on creuse, l'uranium est à environ 70 cm sous nos pieds. Les gens sont au courant du danger de venir ici. Depuis 3 ans, nous avons remis des barrières car depuis l'indépendance, il n'y avait plus rien. Mais comme vous le voyez, les animaux viennent toujours paître facilement sur les déchets. Et le danger, c'est que ces chèvres mangent l'herbe irradiée qui pousse ici, boivent l'eau d'ici et après, les habitants les tuent pour les manger.
Dans l'équipe qui nous accompagne, Kairat, de l'Institut épidémiologique de Maïdoussou, est chargé de faire des relevés sur le site. Il a dans les mains le seul outil que possède la ville pour mesurer la radioactivité, un antique appareil à aiguille marqué des insignes du régime soviétique.
Ici, l'aiguille indique un taux de radiation de 150 microrentgens par heure. C'est un taux très élevé, mais par exemple, là, 3 mètres plus loin, le chiffre descend à 60 et ailleurs, ça peut monter beaucoup plus haut. Ça dépend de l'épaisseur de terre sous laquelle l'uranium a été enterré. Mais de toute façon, le taux normal, c'est entre 17 et 20. Et au-delà de 60, c'est considéré comme dangereux pour la santé.
Ce n'est qu'après la chute de l'URSS que l'on a pris conscience du problème sanitaire. D'abord parce que pendant plus de 40 ans, la vallée de Maïdoussou était zone secrète. Ensuite, parce que pendant les années qui ont suivi l'indépendance brutale du Kirghizistan, tout l'entretien des sites organisés par les soviétiques a volé en éclats. Les militaires chargés d'empêcher l'accès aux déchets ont disparu, tout comme les clôtures métalliques volées et revendues pour la ferraille. Les canaux qui empêchaient les eaux de ruisseler à travers les déchets radioactifs se sont détériorés et les scientifiques, enfin libres d'étudier la question, ne peuvent que constater l'explosion des maladies dans la population. Harmanbek Toychuev de l'Académie des sciences de Hoche.
Il y a plus de pathologies génétiques à Maïdoussou qu'ailleurs. Des enfants naissent avec des malformations des organes, des maladies cancéreuses, des maladies du système reproducteur ou de la thyroïde. À part ça, on constate un nombre important de fausses couches. Et l'on a mesuré que depuis 16 ans, 13% des femmes enceintes ont fait une fausse couche. 95% de ces fausses couches sont liées à des malformations du fœtus non viable. 49% des enfants de Maïdoussou naissent avec des malformations du squelette, des handicaps qui nécessitent une rééducation et parmi eux, certains ne sont pas aptes à la vie. Il y a aussi le problème de l'eau dans la vallée. Dans le village de Koktash et plus en aval de Bourgendou, où il n'y a pas de tuyaux amenant de l'eau propre, les habitants boivent l'eau radioactive de la rivière et 98% des enfants de l'école primaire ont des problèmes de thyroïde. Les gens comprennent très bien tous ces problèmes, mais il faut bien vivre. Il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent vivre. Dans le village de Kairirach, par exemple, les enfants savent bien qu'il y a des déchets miniers sous leurs pieds. Dans certaines maisons de ce village, le taux de gaz radioactif est élevé à un point que l'on peut difficilement imaginer.
La vallée de Maïdoussou souffre également d'un mal commun à l'ensemble du système de santé kirghize, le manque de moyens. Aucun spécialiste, pas de laboratoire, pas d'argent pour la recherche. Difficile dans ces conditions de mener les études qui prouveraient le lien entre la présence d'uranium et les maladies. En attendant, Sabira, l'épicière de Kairirach, l'un des villages les plus fortement irradiés de la vallée, s'interroge sur les nombreuses maladies qui accablent sa famille.
L'année dernière, j'ai accouché d'un bébé mort et on m'a dit que c'était lié à l'uranium. Il était déjà faible quand je suis arrivée à l'hôpital. Il y a 6 autres femmes qui ont fait des fausses couches comme moi, ça arrive souvent. J'ai entendu dire aussi que les maladies de la thyroïde pouvaient être liées à l'uranium, mais deux filles et moi avons des problèmes de thyroïde. Il y a des sites d'uranium pas très loin de nos maisons et à cause de ça aussi, les hommes du village sont devenus des alcooliques parce qu'ils croient que la vodka les protège de l'uranium.
Et comme si cela ne suffisait pas, la population de Mailoussou a également appris en 2004 qu'elle vivait sur une bombe écologique à retardement. Venu constater la catastrophe médicale liée aux radiations, des experts internationaux ont décelé une menace beaucoup plus vaste encore. Razoul, l'employé de mairie, pointe du doigt le sommet des montagnes qui surplombe les sites d'uranium.
Ici, nous sommes sur le site de Koytash. Selon les études menées, un pan de montagne d'un million de mètres cubes menace de glisser en contrebas dans le lit de la rivière. C'est assez pour la bloquer et faire monter le niveau de l'eau jusque sur les sites d'uranium, avec le risque que la retenue lâche et que tout ça se déverse en aval jusque dans le Sir Daria et la vallée du Fergana. Là, ce serait vraiment catastrophique.
Le scénario est pris très au sérieux par la communauté internationale. La vallée du Fergana, à cheval sur 3 pays, est la région la plus peuplée d'Asie centrale, et le Sir Daria qui l'irrigue poursuit sa route plus à l'ouest jusqu'à la mer d'Aral. Sous l'égide de la Banque mondiale, 12 millions de dollars ont été promis et des travaux visant à stabiliser les zones à risque ou à déplacer certains déchets trop proches de la rivière se mettent lentement en place. Avec les organisations internationales à ses côtés, la maire de Mailoussou espère pouvoir rompre la malédiction qui semble s'acharner sur sa ville.
Les experts internationaux ont dit que nous sommes l'un des 10 sites les plus pollués du monde. C'est sans doute vrai, mais ce genre d'article ne doit pas nous faire baisser les bras, mais plutôt motiver le travail des organisations locales et internationales. Et puis vous êtes venus, vous avez vu, les gens sont vivants, ils travaillent, la ville vit sa vie et continuera de le faire, même si c'est vrai que ce sont de très très gros problèmes pour une si petite ville.
Ничего страшного, мне кажется, тут такого нет, но, конечно, проблем много. Маленький город, проблем очень много.
Des collines farcies d'uranium, aux montagnes de verre, les deux vies de Mailoussou n'en forment finalement qu'une seule, celle d'une ville-vallée qui paye au prix fort ses années de prospérité. En un demi-siècle d'histoire, elle est devenue tout à la fois symbole des égarements de la rationalisation soviétique, instrument involontaire de la guerre froide et victime d'une indépendance bâclée. Aujourd'hui, faute de pointer du doigt un coupable à ces maux, Mailoussou attend l'aide et l'attention de la communauté internationale comme un juste retour des choses. Dime.